Rappelez-vous en Proverbe 17, verset 24, on avait parlé du fait que la sagesse est en face de l'homme intelligent. Mais les yeux de l'insensé sont aux extrémités de la terre. Les gens courent après une forme de sagesse. L'apôtre Jacques nous parle d'une sagesse qui peut être charnelle, terrestre, diabolique. Et les gens courent après quelque chose. Si vous posez la question à n'importe quelle personne dans la rue, est-ce que vous recherchez la folie? Les gens vont vous dire non. Ils recherchent la sagesse, en tout cas la leur, pour réussir au mieux leur existence. Mais le problème, c'est que l'insensé, là, il est à l'extrémité de la terre et il voit toujours rien. Il voit toujours pas la sagesse. Parce qu'en fait, c'est pas sur la terre qu'il faut regarder, c'est au ciel. Et il est dit, la sagesse est en face de l'homme intelligent. L'homme intelligent, c'est celui, en effet, par exemple, qui peut passer en revue les bénédictions de l'Éternel, la justice de Dieu. Et du coup, la sagesse vient à lui. Il n'a pas besoin de courir. C'est Dieu qui vient à lui. C'est Dieu qui lui donne des solutions. C'est Dieu qui répond aux prières. C'est Dieu qui enseigne, qui conduit, qui reprend, qui contraint parfois. Et c'est le privilège, un privilège qui nous a été donné de pouvoir d'avoir accès à cette sagesse, une sagesse qui vient à nous. Vous savez, je sais pas, mais dans le monde, il y a des millions de chrétiens, il y a des dizaines, des centaines de milliers d'églises, il y a des serviteurs. On peut se poser la question si les chrétiens reçoivent la sagesse qui est peut-être à proximité d'eux. Des fois, c'est une personne qui pourrait les conseiller, ça pourrait être une église qui est ouverte pour eux. C'est des fois Dieu qui suscite un appel et que les gens refusent. Mais la sagesse vient à nous en réalité, sinon Dieu serait pas juste. Il est important de discerner la sagesse, qui est une forme de folie, on l'a vu, hein. Elle est folie aux yeux du monde. Mais pourtant c'est la sagesse de Dieu. Marcher par la foi est une folie, mais en fait, il n'y a rien de plus sage que de marcher par la foi. Mettre sa confiance en Dieu, c'est une sécurité en réalité, même si on ne sait pas tout ce qu'il va nous demander et tout ce qui va nous arriver. Des fois, on sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas encore ce que l'on peut gagner. Mais à partir du moment où on connaît celui qui nous appelle, on peut avoir de l'assurance. On avait vu que l'église de Corinthe était composée de gens qui avaient reçu énormément de dons, qui avaient beaucoup de capacités, qui avaient eu le privilège d'être fondés par l'apôtre Paul. Le problème, c'est que ces gens-là étaient orgueilleux au bout d'un moment, à cause de leur culture déjà, parce que les Corinthiens se croyaient au-dessus des autres, en général, dans leur culture, dans leur façon d'être. Et puis, ils avaient reçu énormément de dons, donc ils avaient pensé que les dons qu'ils avaient étaient signes de spiritualité, de sagesse, alors qu'en réalité, les dons de Dieu sont souverains, sans repentance, il donne à qui il veut, mais ça fait les dons ne nous rendent pas spirituels. C'est l'exercice des dons qui rend spirituels. Et donc, il y avait des divisions, il y avait un esprit de clan, chacun avait son enseignant. Alors, c'est pratique parce que quand on disait « je suis de Céphas » ou de Pierre, donc ça permettait de dire aux autres « vous n'avez plus rien à dire, hein, on est sous l'autorité d'un apôtre ». Mais en réalité, c'était un esprit de clan. D'autres disaient de Paul et d'autres de Christ. Alors là, quand on dit « c'est Dieu qui me parle », c'est bon, là, toute bouche doit être fermée. Mais ça peut être un esprit de division que de dire ça. Et Paul pose la question dans 1 Corinthiens 1, 20 et 21. Où est le sage? Où est-ce qu'il est parmi vous, le sage? Et il leur rappelle une chose, c'est que Dieu a convaincu le monde de la folie, car ils n'ont pas connu Dieu par Jésus-Christ. Et le problème, c'est que les Corinthiens ne connaissaient pas Christ non plus dans leur expérience. Parce qu'ils pensaient selon la sagesse humaine et ils passaient à côté de la bénédiction qu'il y avait en Christ. Et en 1 Corinthiens 2, versets 6 à 9, nous avions vu que la sagesse de Dieu avait été cachée pendant des siècles. Et cette sagesse, c'était Jésus-Christ, mort à la croix pour nous, incarné. D'abord, c'est son incarnation. Et le plan que Dieu avait élaboré est un plan de folie, quand on y réfléchit. Mais pourtant, c'était la sagesse de Dieu. Et il essaie de leur rappeler de quelle manière ils avaient été sauvés, de quelle manière ils avaient reçu l'apôtre Paul, de quelle manière ils avaient été reconnaissants, de quelle manière ils avaient répondu favorablement à l'appel de la foi. Mais ils avaient oublié ça. Tout simplement parce qu'ils s'étaient appuyés de nouveau sur une forme de sagesse humaine. Et puis nous avions vu aussi en Proverbe 9, versets 1 et 2 et 3, que la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. C'est-à-dire que ce que Dieu construit, là, la maison, en l'occurrence, alors ça nous fait penser au temple, évidemment, ça nous fait penser au corps de Christ, le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Tout ce que Dieu bâtit est parfait et établi sur 7 colonnes, 7 piliers, où il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever, c'est stable, c'est sûr. Et cette sagesse, typifiée là par une maison, taillée sur cette colonne, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin. Ça, ça nous parle du sacrifice de Christ. Le vin fait référence au sang. Les sacrifices font référence au sacrifice de Christ. Et là, en hébreu, il est dit que les sacrifices ont été mélangés au vin. C'est comme une sauce, si vous voulez, qui a pénétré la viande. Et ça, c'est la nourriture que nous devons manger. Nous devons manger Christ jour après jour. Impossible de vivre dans la sagesse de Dieu si on ne mange pas Christ jour après jour. C'est ce que la Sainte Cène, quelque part, nous rappelle. Nous rappelle la mort de Christ, bien entendu. Ça nous rappelle aussi la diversité du corps de Christ à travers les éléments. Et ça nous parle du corps de Christ brisé pour nous, mais ça nous parle aussi de la nourriture spirituelle qui est issue d'un sacrifice offert à la croix. Et manger Christ, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je vais prendre ma croix, moi aussi. Je vais abandonner ma vie, je vais livrer ma vie. Je vais la considérer comme peu importante, voire insignifiante devant la vie de Christ qui m'est offert. Et ça, c'est lié à l'amour aussi. Parce que, pensons à Christ. Quand Christ, avant qu'il soit incarné, ou même lorsqu'il vivait sur la terre, il était sans péché, tout allait très bien. Qu'est-ce qu'il a gagné de plus personnellement? Rien. En livrant sa vie, il n'a rien gagné. Et nous, c'est un peu la même chose. Parfois, servir Dieu nous amène à rien gagner. Alors, pourquoi le faire? Parce que c'est un amour pour les autres qui va nous pousser à le faire. C'est l'amour de Christ qui nous presse. Et selon les plutôt hébreux, c'est parce que Christ voyait tous ses sauvés, l'Église de Jésus-Christ, qu'il a vu cette joie future. Et c'est ce qui l'a amené à se livrer. Parce que lui, il n'avait rien à gagner dans l'histoire. Il avait tout à perdre. Et de la même manière, des fois, toute proportion gardée, on va rentrer dans cette dimension-là. Dieu va nous demander d'y rentrer. D'abord, pour faire un travail dans notre vie, pour qu'on élague certaines choses, qu'on abandonne certaines choses, et puis aussi, il veut sauver d'autres personnes, il veut bénir d'autres personnes, et il demande des âmes disponibles. Je cite souvent en Romains 12, versets 1 et 2, vous savez, lorsqu'il est dit « Offrez vos vies en sacrifice vivant, ce qui sera pour Dieu un culte agréable. Soyez renouvelés dans votre intelligence. » Et le renouvellement d'intelligence, ça nous amène à entrer dans une bénédiction qui est particulière, parce que dans l'Ancien Testament, les croyants d'abord avaient des bénédictions limitées quant à leur relation avec Dieu, mais ils amenaient aussi des sacrifices que l'on tuait. Nous, nous sommes des sacrifices, mais des sacrifices vivants. Offrez vos corps en sacrifice vivant. C'est paradoxal, un sacrifice vivant, un sacrifice, dans la pensée de l'Ancien Testament, c'est un animal qui va mourir. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous demande notre vie en sacrifice, mais nous n'allons pas mourir. Pourquoi nous n'allons pas mourir? Parce que c'est la vie d'un autre qui va remplacer la nôtre. C'est pour ça qu'on livre notre vie en sacrifice vivant. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que si on compte de notre point de vue, c'est-à-dire avant la vie de résurrection, peut-être qu'on a beaucoup à perdre. Mais si on regarde du point de vue de Dieu, l'avancement de son royaume, bénédiction des âmes, le salut, la guerre spirituelle, en fait, par Christ, parce que Christ y gagne quand ses serviteurs lui obéissent, l'avancement du royaume se fait, et nous, nous retrouvons notre vie. Vous savez, ça me fait penser, tu as parlé de la dîme tout à l'heure, c'est intéressant la dîme, parce que la dîme, on la donne à qui? Il y a les masques, j'entends pas beaucoup. À Dieu. Okay. Et qu'est-ce qu'il en fait, cette dîme? en fait, ça revient vers nous. Ou ça revient à d'autres, peut-être, si on soutient une mission. Ici, c'est les offrandes et les dîmes qui font que l'électricité est possible. C'est pas parce que Dieu voit rien et qu'il lui faut l'électricité. Donc on donne à Dieu, mais en réalité on récupère. Il y a des chaises pour s'asseoir, un lieu, un endroit. Toutes les églises n'ont pas un local comme celui-là, mais en tous les cas, Dieu redonne. C'est aussi pour nous que nous le faisons. Si nous avons cette vision du royaume de Dieu. Et on voit là que la maison a taillé, elle a cette colonne, elle a gorgé ses victimes, mêlé son vin, dressé sa table, et elle a envoyé ses servantes, et elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Ça, c'est la folie de la prédication, la folie de l'évangélisation. Nous sommes appelés à non pas être des héros, héros, mais des héros à UTS. Des personnes qui allons proclamer l'évangile, proclamer la bonne nouvelle. Nous appelons ceux qui sont fous encore. On avait vu, hein, c'était des gens simples, pas forcément des rebelles, mais et on les invite à la sagesse de Dieu. Et nous avions vu aussi, Luc chapitre 7, cet épisode où Jésus compare les pharisiens avec une situation où il y a de la musique qui est jouée et puis les gens ne répondent pas à la musique, des plaintes sont chantées, des complaintes plutôt, et pareil, l'assistance ne répond pas. Et ça, c'était le cas des pharisiens. Les pharisiens ont entendu Jean le Baptiste, et ça s'apparente aux complaintes, parce que Jean Baptiste était un ascétique qui vivait dans le désert, revêtu de la peau d'un animal, prêchait la venue du royaume de Dieu, le baptême de repentance. Donc il avait un discours très tranchant qui devait normalement plaire aux pharisiens. Ils auraient dû se réjouir de voir que les personnes se repentent de leurs péchés. Mais non, ils n'étaient pas contents, ils étaient contre Jean le Baptiste. Ils ne voulaient pas chanter, enfin, ils n'acceptaient pas les complaintes de Jean le Baptiste. Et Jésus, lui, il a eu un ministère beaucoup plus public. Il n'était pas dans le désert, il priait, il prêchait devant des milliers de personnes. Il était vu dans la place publique, dans le temple. Et puis, il était invité par les gens de mauvaise vie, les publicains. Il s'approchait des prostituées. Et donc là, les pharisiens disent, mais vous buvez, vous mangez. Donc eux n'aimaient pas les chants qui étaient proclamés par Jésus et ses disciples. Et Jésus leur dit, mais vous êtes jamais contents. Quand il y en a un qui chante des complaintes, comme Jean le Baptiste, vous chantez pas avec lui. Et quand moi je chante des chants de joie avec mes disciples, vous n'êtes pas contents non plus. En réalité, ils ne voyaient pas l'œuvre de Dieu dans les deux cas. Et ça, c'est le cas typique de personnes qui vivent selon une sagesse humaine, une sagesse religieuse, qui ne voient jamais la vie de Dieu chez les autres. Ils ont toujours un œil critique, ils sont toujours suspicieux, alors que la Bible nous dit de ne pas soupçonner le mal, par exemple. Ils ont un regard aiguisé pour discerner les erreurs chez les autres, les pailles dans l'œil du prochain. Et Jésus leur explique que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu peut utiliser des personnes complètement différentes, avec des tempéraments différents. Tout au long des Écritures, nous voyons des gens colériques à être appelés par Dieu, des meurtriers à être appelés par Dieu, des adultères à être appelés par Dieu, des déprimés, comme Élie, appelés par Dieu, des menteurs, comme Jacob, appelés par Dieu, des parjures, comme Pierre, appelés par Dieu. Dieu a appelé des tas de personnes. Et là, j'imagine les pharisiens en disant, mais qu'est-ce que c'est? Qui sont ces gens? Et Jésus répond dans Luc 7, la sagesse est démontrée par ses enfants. L'œuvre de Dieu fait que les gens se tournent vers la vie éternelle. Et ça va au-delà de toute la sagesse humaine. Le but de Dieu, c'est de nous racheter de toute iniquité. C'est de sauver. Et donc, la sagesse a été justifiée par ses enfants. C'était la sagesse de Dieu que d'agir comme il fait tout au long des Écritures, avec des personnes différentes. Et qui ne rentrait pas dans un moule, il ne rentrait pas dans le moule de la loi, il ne rentrait pas dans le moule, de la foi parfaite, de la sainteté. Ils n'étaient pas dans le moule, personne ne peut rentrer dans un moule de ce type. Mais néanmoins, la sagesse de Dieu était justifiée par ses enfants. parce qu'ils sont au ciel. Tout simplement parce que, comme tu en as très bien parlé, ils avaient reçu la justice de Dieu, donc on ne peut pas dire que ce n'est pas juste. Et j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure, des fois quand on rentre dans un système de comparaison, faut s'attendre parfois à être déçu parce que il peut s'avérer vrai que l'on sert plus que les autres. Il peut s'avérer vrai que l'on donne plus notre vie que celle du voisin. Que peut-être on... Alors je dis pas qu'il faille non plus être une serpillière, d'accord, on a notre dignité. Néanmoins, dans les églises, il y a des personnes qui servent plus que d'autres. Il y a des gens plus spirituels que d'autres. On n'est pas là dans un régime totalitaire où rien ne dépasse et si quelque chose dépasse, on l'envoie dans un camp de rééducation. C'est pas ça l'Église. C'est facile hein, de formater tout par la force, par la contrainte. Mais quand il s'agit d'attitude de cœur, c'est-à-dire parce que Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur, bah, il y en a qui mettent du temps à donner leur cœur à Dieu, à ce que la sagesse, à accepter la sagesse de Dieu dans leur propre vie. Et donc, il faut continuer de croire que ce que Dieu a commencé dans la vie d'un individu, il l'accomplira jusqu'à la fin. Peut-être il y en a qui résisteront jusqu'au bout, on n'en sait rien, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et ça m'amène à parler encore une fois de Jacques chapitre 3, et on terminera cette semaine avec ce passage, versets 13 à 18. Jacques 3, versets 13 à 18. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» Ne répondez pas. Mais lequel d'entre vous est sage et intelligent? Et Jacques donne une réponse. Quelle est la réponse que Dieu attend? Nous, on aurait tendance à dire, moi. Mais là, Jacques dit pas lever la main. Il dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Alors, les œuvres, quelles sont-elles là, dans le contexte? Parce qu'évidemment, il y avait des tensions dans l'épître de Jacques. En fait, il y a des tensions tout le temps dans l'Église. Il y avait des tensions chez les Philippiens, il y avait des tensions à l'Église de Corinthe, il y avait des tensions chez les Galates, il y avait des tensions parmi les lecteurs de l'épître de Jacques. Mais on a tendance à penser, si on met Dieu dans une boîte, qu'on va prendre une partie des Écritures, on va s'y atteler et essayer de faire respecter ça. Rappelez-vous, c'est ce que Pasteur Stevens appelait un christianisme à une dimension. Donc, vous discutez avec certains mouvements charismatiques qui vont vous parler du parler en langue dès qu'ils vous voient. D'autres hyper-légalistes et qui vivent en claquant des dents toute leur vie chrétienne de peur de perdre leur salut, ils vont vous poser des questions sur l'assurance du salut. D'autres sont focalisés sur l'autorité dans l'Église parce qu'ils ont un petit esprit rebelle, donc ils n'aiment pas que quelqu'un ait une autorité sur leur vie. Alors ils aiment bien la pluralité des anciens, ça permet de diviser un peu les forces. Donc c'est la doctrine de la pluralité des anciens opposée aux pasteurs enseignants. D'autres sont focalisés sur l'eschatologie. Alors, dès qu'ils voient le chiffre 666, ils sont paralysés. Dès qu'ils voient un code barre, ça y est, le diable arrive. Et donc, ils voient. C'est un christianisme à une dimension où on ne voit que ça, etc., etc. Vous pouvez multiplier ça, les exemples. Mais en fait, et comment je voudrais mimer ça? C'est Pasteur Jean, je vais t'utiliser un peu, mais. Imaginons que je sois un légaliste, un pharisien, et que je veux montrer mes œuvres. Puisque là, il le dit, qui est sage et intelligent, qui montre ses œuvres par une bonne conduite. Donc je suis là, déjà moi, j'essaie de montrer à tous que tout va bien, et s'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas, je vais te prendre comme ça, et puis il faut marcher avec Dieu, et puis je vais le reprendre. Et je suis un bon serviteur de Dieu. Oui, mais là, il nous est dit autre chose. Il nous est dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Avec la douceur de la sagesse. En d'autres termes, on peut ne pas être sage tout en servant Dieu. Et comment savoir si on n'est pas sage? Il y a plusieurs éléments, mais là, il y en a un. C'est est-ce qu'on a la douceur ou pas? Et puis, il y a une autre manière de servir, c'est d'aller vers les gens avec un cœur brisé et de voir qu'une personne n'avance pas et on lui parle, on l'appelle, on l'implore, on dit ce qui ne va pas. Et en même temps, on est brisé, on s'identifie à la personne. La douceur de la sagesse. C'est des fois la même doctrine. C'est la même vérité, entre guillemets. Mais il y a une lettre qui tue, et il y a l'esprit qui vivifie. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est pas de mémoriser 150 versets plutôt que 200, ou 300, ou 50. Bien sûr, mémorisons la Bible. C'est important. Mais la sagesse, en réalité, c'est la mise en pratique de la vérité. Pas de mise en pratique, pas de sagesse. Quelqu'un est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres. Ouais, mes œuvres. Mais attends. Par une bonne conduite, ok. Alors là, on voit le gars, il est crispé. Avec la douceur de la sagesse. Et c'est là où il y a une bénédiction qui nous revient. Parce que quand on vit selon la douceur de la sagesse, c'est beaucoup plus reposant. Il n'y a pas plus tendu qu'un légaliste. Il n'y a pas plus tendu que quelqu'un qui marche selon les œuvres. Mais quand il y a la douceur de la sagesse, il peut y avoir des larmes, des joies, des déceptions. Mais on devient de plus en plus comme Christ. Vous savez, on en parlait ce matin, aujourd'hui avec d'autres personnes. Mon épouse faisait référence à Jésus qui pleurait sur Jérusalem. Il dit, j'ai envoyé des prophètes, vous avez lapidé, vous avez scié. Et là, on voit la douceur de la sagesse. Parce que Jésus sait que cette ville va être rasée dans quelques dizaines d'années. Qu'il va y avoir la diaspora pendant des siècles et des siècles. Et la douceur de la sagesse est brisée. Et la douceur de la sagesse s'est exprimée jusqu'à la croix, où il a parlé au brigand et lui a donné une espérance. La douceur de la sagesse. Il n'a même pas répondu à l'autre qui l'insultait. Voyez, en disant, toi ce soir, tu seras avec Lucifer. Il lui a pas dit ça, il a rien dit, c'était pas le sujet. Il a parlé à celui qui était dans le besoin, la douceur de la sagesse. Et comment devient-on doux et donc sage? Par l'obéissance à la parole, la mise en pratique. Je vous garantis, et je le sais, je parle à des convertis là, j'ai rien contre vous, hein. J'ai rien discerné dans la vie de quelqu'un, c'est pas le sujet, mais... Quand on met en pratique la vérité, il y a un brisement, la croix vient dans notre vie et ça nous rend doux et sages. C'est aussi simple que ça. La douceur de la sagesse. Et il continue, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Corinthiens, typiquement. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Vous avez parlé du fait que la pureté, là dans ce verset, parle de la transparence avec Dieu. Tout comme Dieu est transparent avec nous. Dieu ne cache pas ce qui va arriver. Comme dit Dieu à Abraham, cacherai-je à un ami ce qui va arriver? Dieu nous prévient. Il nous éduque, il nous prévient dans sa parole de ce qui risque de nous arriver si on ne marche pas de telle ou telle manière, ou quelles sont les bénédictions si nous marchons avec lui. Il est transparent, il ne nous cache rien. Il ne nous dit pas tout, mais il y a tout ce qui contribue à la piété, on a tout ce qu'il faut. Et puis ensuite, il est dit, elle est pacifique. Combien notre berger était pacifique lorsqu'il était sur la terre? Alors d'un côté, il y a des versets où il dit, ne croyez pas que je sois venu amener la paix sur la terre, mais le feu. Alors, vous allez mettre ce verset-là en face. Oui, dans le sens où il y a des choix à faire. Bien sûr qu'il amène une division, il amène un feu. Mais une fois qu'on a choisi Christ, on est éduqué par la douceur de Dieu. Vous voyez, quand on vient à lui, la paix est restaurée. Et donc, elle est pas... Sagesse, elle est pacifique, modérée, c'est-à-dire que Dieu ne rue pas dans les brancards tous les jours. Il peut le faire, mais combien Dieu est patient. Combien Dieu est patient avec nous. Et nous demande de l'être avec les autres. Elle est conciliante, on cherche le rapprochement. Ça, c'est la sagesse. C'est pas de savoir qui a tort ou a raison. Bien sûr que c'est important parfois et... On a des convictions, on a des choix à faire, mais une fois qu'on a ces convictions-là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les utilise pour accuser les autres, pour diviser, pour écraser, ou est-ce qu'on essaie d'être conciliant, de convaincre? Pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est intéressant qu'il associe les fruits et la miséricorde. Plein de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité et d'hypocrisie. Pas de double pensée. Pensée simple, un œil simple, qui permet de marcher par la foi. Et regardez ce dernier verset. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. On peut pas chercher le fruit de la justice en semant la guerre et en recherchant la guerre. Mais c'est juste, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que Dieu dit de faire. Oui, c'est juste, mais c'est pas la justice. Parce que la justice de Dieu, elle a été élevée à un autre niveau où Christ a pris tous les péchés de l'humanité. Et que maintenant, c'est la miséricorde qui triomphe du jugement. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Donc cette entrée vient, pensons un petit peu à notre attitude. Certains, je le dis franchement, je parlais tout à l'heure des gens qui ont les poils qui se hérissent devant un code-barre, d'autres c'est devant un masque, d'autres c'est devant un vaccin, d'autres c'est devant un ordre gouvernemental, d'autres c'est devant une loi qui n'est vraiment pas issue des Écritures, je pense à toutes les lois qui ont été votées cet été, dont peu de chrétiens ont parlé malheureusement, concernant les manipulations génétiques, le sort des enfants qui vont être fabriqués avec des mères porteuses. Et on peut être très énervé devant ces choses-là. Mais soyons sages. Ne soyons pas militants. Soyons sages. Le meilleur militantisme, c'est la sagesse de Dieu, la douceur, la piété, la mise en pratique, et de dire les choses qui sont contenues dans les Écritures, et donc de communiquer les pensées de Dieu et pas les nôtres. C'est de ça dont le monde a besoin. Et cette douceur-là va se répandre aussi en nous, ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. On continue de marcher dans la vérité, dans nos convictions, dans nos opinions même, on peut avoir des opinions différentes sur les choses. Pensez à l'apôtre Paul, toujours aux Corinthiens, vous savez, là c'était pas, il les reprend pas de façon dure parce que c'était une question légitime et Paul a la douceur de leur répondre justement, malgré tous les problèmes qu'il y a dans l'église, mais on lui a posé des questions sur les viandes sacrifiées aux idoles. Est-ce qu'on doit en manger ou pas? Il donne d'un côté le point de vue doctrinal, qui va assez loin, de toute façon il n'y a pas d'idole. Bon, il n'y a pas d'idole. Bah oui, bien sûr, on vit au-dessus, on sait que pour nous, il n'y a pas d'idole. Une statue, c'est une statue, un temple, c'est un temple. On n'est plus lié à ça. Mais si ton frère a encore une faiblesse dans ce domaine-là, et il n'ose pas manger de la viande sacrifiée aux idoles, n'en mange pas non plus. La sagesse de Dieu est paisible, modérée, conciliante, pleine de douceur, afin de gagner les gens vers la vérité. Et peut-être que ces personnes-là vont prendre du temps avant d'être libérées de certaines choses. Mais ça fait pas d'eux des impurs. Vous voyez, ben c'est un peu la même chose dans d'autres domaines aujourd'hui. Nous devons accepter le fait que on a une vie à vivre chacun devant Dieu. Et c'est déjà quelque chose. D'accord? Se retrouver seul devant Dieu. Et donc, il y a des forteresses dans nos vies, il y a des difficultés, il y a des déceptions peut-être, mais encourageons-nous les uns les autres. Soyons unis. La sagesse de Dieu engendre toujours l'unité. Que Dieu vous bénisse.